Bonsoir, bonjour, bon matin, bon après-midi, mesdames, messieurs, mes chers, et bienvenue au balado qui raconte des contes, des histoires, des genres, des places et des personnages plus ou moins connus de cette vaste et variée région qu'on appelle les
Pays d'en haut.
Mais c'est quoi donc ça, les Pays d'en haut? Bon, selon le site web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC des Pays d'en haut fait partie de la région administrative des Laurentides avec une superficie totale de 734,52 km², une population de 48 205 et 10 municipalités dont la plus grande est Wentworth Nord et la plus populeuse est
Santadel with its gay cottages and perky fir trees.
Bon, tout cela est fort intéressant. Mais si tu demandes aux Québécois moyens c'est quoi les Pays d'en haut, 9 fois sur 10, tu vas entendre quelque chose au sujet de l'œuvre tristement immortelle d'un certain
Claude-Henri Grignon,
qui d'ailleurs est mort et enterré à quelques coins de rue de chez nous. Et par les nuits de pleine lune de janvier, on l'entend parfois retourner dans sa tombe en criant
« Viens le chien!
Viens le chien!
Viens le chien! »
Ça, c'est clairement une fausse histoire des Pays d'en haut. Mais tous ces livres et séries télé de feu M. Grignon, qu'il repose en paix et ne reviennent jamais, qui ont façonné l'imaginaire des Canadiens français depuis la Grande Noirceur, sont tout aussi faux. Oui, Séraphin n'a jamais vraiment existé. On a même démonté et vendu son fameux village sur le bord de la 117. Nous, on n'aime pas ça, la fausse histoire. Surtout parce que, dans la vraie histoire, les
Pays d'en haut,
c'est quelque chose de bien plus intéressant qu'une petite poignée de villages à la limite nord du 450. Même si cette région, que j'habite et que j'affectionne beaucoup, comporte aussi son lot de vraies histoires hautement captivantes, dont on va parler abondamment dans ce balado. Mais non, on ne veut pas se limiter à ça, parce que dans la vraie histoire, pas les écrits moralisateurs et réactionnaires de ce minable fils prodigue du bon docteur Grignon, les Pays d'en haut, c'était un immense pan de l'Amérique, à peu près tout ce qui se trouvait en amont de Montréal. C'était pas juste
Saint-Sauveur, where enthusiasts ski in joy of release from the daily round.
Et c'était pas juste
Sainte-Marguerite, where you can practice your technique on the slalom hill.
C'était aussi Détroit, Duluth, Marquette et Milwaukee. C'était le Wendake et le pays des Anishinaabe. C'était pas juste la Drave et les champs de patates peu productifs, mais une vaste et diverse territoire de rencontres entre plusieurs peuples, qui a engendré aussi un nouveau peuple, les Métis du Manitoba. C'était l'endroit qui a donné au monde non seulement le sirop d'érable et les riz sauvages, mais aussi la philosophie des Lumières. Et c'était surtout pas le pays de Séraphin et Alexis, mais celui de Radisson, Riel, Pontiac et Condiaronc. Si les Pays d'en haut n'étaient pas l'Amérique au complet, ils étaient quand même une des parties les plus importantes et intéressantes des Amériques. Et nous, on aime ça. Alors, bienvenue à Boulot Noir, le podcast sur les pays d'en haut qui raconte des petits pans de l'histoire, mais qui n'a pas peur de penser grand.
Oui, je fais du ski de fond.
C'est exigeant, ça!
Ben, mon nom, c'est Pascal Drelais. Je suis le petit-fils d'Édé Fortier, un grand bâtisseur de pistes de ski nordique dans le village de Montréalan à l'époque.
Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va rester proche de chez nous, juste de l'autre côté de la rivière du Nord, pour parler d'un sujet bien de chez nous. Oui, on va parler du ski de fond.
Tu sais, à partir du village, dans le temps, là, ça donnait 1100 km de réseau.
Les Laurentides, et surtout la région entre Shawbridge et Mont-Tremblant, en passant par Saint-Sauveur, Morin Heights, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-Monts, sont reconnus comme un des berceaux du ski en général en Amérique du Nord, mais aussi comme un paradis du ski de fond. Et quand on parle ski de fond dans la région, c'est surtout le nom d'un seul homme qui revient dans ces histoires, le célèbre Herman Smith Johansen, dit Jack Rabbit.
c'était son surnom. J'ai un pamphlet, là, c'est de valeur, mais c'était écrit Aidé Fortier, le Jack Rabbit Junior de Mont-Roland.
Comme il existe déjà un très beau documentaire de l'ONF au sujet de Jack Rabbit, on va parler aujourd'hui d'un autre bâtisseur de sentier, Jean-Paul Eddy Fortier.
Mon grand-père, lui, il est arrivé dans les années 45, puis c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère, Cécile Plouf, puis il s'est installé ici parce que lui, il est originaire des cantons de l'Est. Ensemble, ils ont acheté l'Hôtel des Monts à Mont-Roland.
Si aujourd'hui on connaît Eddy Fortier, c'est surtout à cause du relais du père Eddy, un petit refuge sur le parc linéaire Petit Train du Nord.
La compagnie Roland, quand elle a fermé, mon grand-père il a fait ce relais-là, puis il y avait du monde qui était bien déprimé de la compagnie Roland, mais ça leur a fait du bien. T'sais, ils sont ramassés toute la gang, ils ont bâti le relais.
Si on connaît moins Eddy Fortier de nos jours, c'est d'abord parce que beaucoup des sentiers qu'il a construits ont été fermés. Mais un peu aussi parce que le village de Mont-Roland, dont il a été une figure emblématique, a aussi disparu de la carte. Cette ville de compagnie, unique dans les Laurentides, a été créée par Jean Roland en 1918, directeur de l'usine de papier Roland, mais aussi maire de Sainte-Adèle à l'époque, essentiellement pour éviter de payer des taxes à la municipalité de Sainte-Adèle. Avec la fermeture de l'usine en 1990, la ville s'est retrouvée en mauvais état financier et a fini par se refusionner avec Sainte-Adèle en 1997.
J'ai grandi là, j'ai jamais quitté mon village, ben, quelques reprises, mais j'ai assisté à la fin de mon village en 1997. Puis je te dirais que la fusion, tu sais, ça a fait des chicanes de clocher un petit peu. Hein. Moi, je sais qu'il y a eu des pertes de permission qu'on a perdues. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas accepté ça, cette fusion-là, fait qu'ils se sont dit qu'ils ne voulaient plus qu'on passe chez eux.
J'ai parlé avec Pascal, le petit-fils d'Eddy Fortier, et lui aussi un skieur notoire de la région, pour mieux comprendre l'histoire fascinante de cet homme et son œuvre.
Moi, mon grand-père, quand il est arrivé, d'abord, il était tailleur de glace sur la rivière du Nord, puis le gars qui était propriétaire du rustique, là, l'ancien mononcle, il voyait mon grand-père passer, tu sais, puis il disait, c'est qui ce gars-là qui est tout le temps à l'heure? Il dit, je veux savoir c'est qui, parce qu'il passe tout le temps à même heure. Fait que là, c'est sa première rencontre qui le mène vers le monde de l'hôtellerie, si tu veux. Là, il va commencer à travailler au rustique, puis à partir de là, à un moment donné, il devient gérant. Puis après ça, il va aller travailler au New Mont-Roland avec Madame Ouellette, puis Odilon Ouellette. Le New Mont-Roland, c'est l'hôtel qui est proche du Petit Train du Nord, ça, à Mont-Roland. Là, ils vont faire leur classe pendant une couple d'années. Puis à un moment donné, ma grand-mère a dit à mon grand-père, « Le monde, là, c'est toi qui viens de voir aider. » Fait qu'elle a dit, « On va s'acheter quelque chose. »
Malheureusement, avec la montée de la motoneige récréative aux années 60, le ski de fond a vu sa popularité chuter et ses réseaux de sentiers amputés au profit des maudits skidoo. Mais Eddy Fortier a été un précurseur de la renaissance aux années 70 du ski de fond et deux autres sports d'hiver non motorisés.
C'est sûr que mon grand-père, au début, il faisait du skidoo. Tu sais, c'était chez nous, c'était skidoo. Puis lui, à un moment donné, il est redevenu plus un défendeur du ski puis du sport de plein air déjà dans ces années-là. Fait qu'il a délaissé sa motoneige. Puis il s'est mis à négocier des droits de passage pour les pistes de ski. Puis on a même volé des pistes de skidoo à l'époque. Tu sais, comme la vieille Doncaster, ça a déjà été skidoo. Les pistes de Jack Rabbit s'étaient faites voler par section par les skidoo dans les années 70. Puis lui, il les avait repris, là, puis il les avait remis à la saveur du ski nordique. Moi, mon grand-père, dans le fond, il a créé 100 km que c'est lui qui a créé. Tu sais, tu peux prendre la décision de partir à Saint-Hippolyte, tu pouvais partir vers Prévost, tu sais, Sainte-Marguerite.
Tous ces efforts ont porté fruit avec le célèbre festival de ski de fond de Mont-Roland.
Tu sais, c'est plein de belles histoires de même. Le festival de ski de fond de Mont-Roland qui a duré pendant deux décennies, ça a commencé en 1977. Jack Rabbit est venu faire son tour à Mont-Roland. Il est venu rencontrer mon grand-père, puis il est venu inaugurer le premier festival, puis ça a duré jusqu'en 1997. Même ceux qui faisaient pas du ski de fond, cette journée-là, ils faisaient du ski de fond, fait que c'était bien drôle. On avait un druide du village, que je l'appelle, c'était Monsieur Gérald Desjardins. Lui, à tous les années, c'est lui qui s'occupait de faire un caribou pour un petit drink. Là. Je peux te dire que des années, il y a des cases de poils qui se sont perdues pendant le festival.
Or, même si Eddy Fortier a été une figure centrale, il ne faut pas oublier non plus que c'était toute une communauté qui se mobilisait autour du ski de fond à l'époque.
Puis aussi, un fait notoire, là, c'est qu'en 1975, il va fonder un groupe, ça s'appelle le Club des Monts, justement. Au bout de la ligne, tu sais, on parle quand même des années 75, là, il était 250 membres là-dedans. C'est tous des gens du village qui, déjà à cette époque-là, soit donnaient du temps bénévole, les commerçants donnaient de l'argent, là, tu sais, comme pour... on a acheté des skidoo pour tracer des pistes un temps pendant, tu sais, quand c'est devenu bien populaire, m'amener, là, ça, tu sais, c'était des autobus, là, qui venaient à l'Hôtel des Monts, là. Puis ça, je me rappelle de ça quand j'étais petit, là. Tu sais, c'était tout le temps bondé de monde, là. Ça marchait, puis c'était ça la beauté de l'affaire, c'est qu'il n'a pas eu peur, tu sais, d'amener, tu sais, comme la piste et l'in, il l'a amené au Pain Rouge. Dans ce temps-là, il y avait un bar, un restaurant là. La première piste qu'il a faite pour Mont-Roland, dans le fond, c'est la piste qui menait au golfe de Piémont. Puis ça aussi, ça menait au commerce. D'ailleurs, c'est le propriétaire du club de golf de Piémont à l'époque qui a comme starté mon grand-père. Il a dit, hey, pourquoi t'en fais pas des pistes de ski? Puis il dit, tu devrais en faire une qui mène chez nous. Ça y amenait du monde. On allait, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, là, je partais avec ma grand-mère, on allait boire notre chocolat chaud, puis on revenait. Tu sais, c'était une belle petite piste facile à faire. C'était d'un plus facile.
Malheureusement, Eddie Fortier est décédé en 1993 à la suite d'un cancer.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir aidé dans ma vie jusqu'à mes 18 ou 19 ans, là, en 93, ouais. Puis c'est un homme qui, encore aujourd'hui, était remplaçable. La Fortier, c'est la dernière piste qu'il a faite. Mon grand-père, il avait dit, je sais pas comment on va l'appeler, celle-là. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, celle-là, faut que tu l'appelles la Fortier, tu sais. Il dit, ouais, peut-être.
Autour des années 2000, le ski de fond dans la région s'est beaucoup déplacé vers des sentiers plus larges et entretenus mécaniquement, et les anciennes pistes patrimoniales ont encore commencé à disparaître de la carte. Mais, depuis quelques années, une autre génération s'est intéressée à l'héritage de Eddie Fortier, et Pascal et d'autres se mobilisent pour mettre en valeur ses efforts.
J'essaie de défendre mon patrimoine, je cherche pas une guerre, mais j'aimerais que les gens changent d'idée, puis reviennent sur les droits de passage, nous les laisser. Je fais des petites pancartes, je mets mon nom dessus, puis je marque l'histoire, tu sais, des petits bouts d'histoire comme qu'on parle là, qu'à l'époque, on avait 100 km de ski, pour qu'ils, en lisant, peut-être, se disent « Ouais, c'est vrai que c'est plate qu'on ferme ça », ou justement qu'ils disent « Ah, OK, Pascal Drelais, on l'actionne ».
Alors, je vous invite, les auditeurs, à venir l'hiver prochain faire un tour, que ça soit juste sur le petit train du Nord ou plus loin dans le bois. Et si vous croisez une petite pancarte en bois franc attachée après un arbre, prenez le temps de la lire, car il y aura sûrement une vraie belle histoire gravée là-dessus.
Ça, c'est une affaire mon grand-père m'a dit avant de mourir. C'est pour vrai, je n'invente pas. Il dit, un vrai homme, il dit, ils m'ont dit toute ma vie de ne pas pleurer, mais il dit, aujourd'hui, moi, je t'ai dit qu'un vrai homme, il faut que ça sache pleurer. Ça voulait dire un petit peu, j'ai tellement tout gardé en dedans que c'est ça qui amenait ma maladie, tu sais. L'homme a besoin, et la femme, d'être en forêt. C'est reconnu que passer du temps en forêt, c'est bon pour notre esprit. Fait qu'il nous garde en forme. Il contribue à garder les gens en forme, en santé mentale et en cardio. C'est un péché de fermer ça, selon moi.